Le débat africain. Alain Foucault.
Avec ses 5 trophées continentaux, elle est la 2e nation africaine la plus titrée après l'Égypte, qui en compte 7. Avec ses 7 participations en phase finale de la Coupe du Monde, elle est assurément l'une des grandes nations du football mondial. Il suffit de déclamer le nom du pays à l'autre bout du monde pour que les passionnés évoquent les exploits de Roger Milla et sa danse rituelle de célébration de but, ou le talent de Samuel Eto'o dans les plus célèbres clubs mondiaux. Mais paradoxe, le football camerounais se singularise aussi trop souvent par sa gestion chaotique. Une gestion inversement proportionnelle au talent de ses stars et à son palmarès qui suscite souvent l'ironie des professionnels du ballon rond à travers la planète. Tout le monde se souvient des joueurs des Lions Indomptables refusant de monter dans l'avion qui devait les conduire à la Coupe du Monde en 2002 au Japon parce que leur prime n'était pas payée. Une de ces scènes ubuesques auxquelles certains se sont malheureusement habitués puisque cela arrive de façon presque récurrente depuis de nombreuses années. Ce n'est pas tout. Au Cameroun, qui accueille depuis plus d'une semaine maintenant la CHAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football pour les joueurs évoluant dans un club de leur pays, le championnat national est à l'arrêt depuis près d'un an maintenant. Et l'équipe qui représente les Lions Indomptables a été mise en place moins de 3 semaines seulement avant le début de la compétition. Depuis l'emprisonnement du président de la fédération camerounaise, Yah Mohammed, en 2013, le pays des légendaires gardiens de but Thomas Nkono et Joseph Antoine Bell compte déjà 3 comités de normalisation de sa fédération, avec un conflit latent entre la fédération et la ligue professionnelle. Il y a quelques jours, à 24 heures du coup d'envoi de la CHAN, on apprenait la décision du TAS, le tribunal arbitral du sport, d'annuler l'élection de l'actuel exécutif de la fédération camerounaise de football. Cette liste des incongruités n'est pas exhaustive. Si le Cameroun a refait son retard sur le plan des infrastructures et est, après plusieurs glissements de dates, presque prêt pour accueillir la CAN en janvier et février 2021, comment faire pour en finir avec ce désordre dans la gestion de son football? Et comment réorganiser pour remettre le football camerounais sur les rails? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Yaoundé, la capitale camerounaise, à l'occasion de la CHAN, avec plusieurs invités sur ce plateau pour parler du football national. D'abord, Monsieur Jules-Frédéric Nyonga, ancien entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun. Plusieurs fois entraîneur, il faut le préciser. Bonjour Jules-Frédéric Nyonga.
Bonjour.
Notre second invité de ce plateau est une grande voix du football africain en général et camerounais en particulier. Cette voix qui symbolise le ballon rond, la grande épopée pour notre génération qui n'avait pas la chance d'avoir la télévision. Tout se passait donc par la voix, la radio. Abel Mbengue a été également un membre important de la CAF, la Confédération africaine de football. Bonjour Abel Mbengue.
Bonjour Michel Infoca.
Merci d'être là. Notre troisième invité dans cette première partie est Parfait Siki, le directeur de la communication de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Bonjour Parfait Siki.
Bonjour.
Quatrième invité de ce plateau de Yaoundé en marge de la CHAN, Monsieur Komé Max, le président du Dragon de Yaoundé, un des clubs les plus anciens de la capitale. Bonjour Monsieur Komé Max.
Bonjour Monsieur.
Et j'ai le privilège de co-présenter cette émission aujourd'hui avec Polycarpe Somba, le correspondant du RFI au Cameroun. Bonjour Polycarpe.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Merci d'être là. Alors, lorsque l'on connaît le palmarès à la fois des Lions Indomptables et certains clubs locaux tels que le Canon de Yaoundé qui compte 4 trophées continentaux, l'Union de Douala, plusieurs coupes continentales et autres tonnerres ou coton sport, on se demande comment on peut arriver à ce niveau si la gestion derrière, le back-office est aussi mauvais depuis si longtemps. Jules, vous êtes dans cet environnement depuis longtemps, Jules Nyonga. Vous avez dirigé ce club. De quoi souffre la sélection camerounaise, ou en tout cas le football camerounais?
Si nous partons de 90, où quand même l'équipe nationale avait atteint son apogée en termes de performance, nous faisons quart de finale de la Coupe du Monde. À partir de ce moment-là, un certain nombre de ces joueurs-là ont arrêté de jouer et n'ont pas pu être remplacés parce que derrière, il n'y avait pas une base de formation pour pouvoir remplacer ces jeunes-là. Tout simplement que le niveau du championnat camerounais à cette époque-là était d'un très bon niveau.
Absolument.
Et on jouait un championnat à 16 clubs. Aujourd'hui, nous jouons un championnat dit professionnel à 36 clubs.
36.
36 clubs.
Donc, 18 Elite 1, 18 Elite 2. Il va de soi que si nous avons 100 bons joueurs à répartir dans 36 clubs professionnels, chaque équipe a combien de joueurs ? Se retrouve avec 2-3 joueurs maximum. Par contre, si nous avons un championnat professionnel de 12 à 14 clubs, ces 100 joueurs se retrouvent dans ces 12-14 clubs avec la moyenne de 7 à 8 joueurs par équipe. Et du coup, le niveau du championnat, il va grimper. Aujourd'hui, c'est impossible. Parce que le niveau du championnat est tellement bas.
Donc on va noter le championnat qui est de mauvaise qualité, qui est de moins bonne qualité, on va dire,
voilà,
qui depuis un an.
Voilà, donc
oui, c'est l'occasion de demander au président de club qui est avec nous sur le plateau, monsieur Max, président de l'historique
du Dragon
de Yaoundé, si on peut légitimement considérer que l'âge d'or du football camerounais, c'est 90 avec cette performance saluée de par le monde, première équipe africaine à atteindre les quarts de finale. On peut quand même regarder en arrière et considérer que avant 90, beaucoup de clubs camerounais rayonnaient sur le continent. Vous qui êtes, j'allais dire, l'un des acteurs qui nourrissait ce football au travers de l'un de ces clubs mythiques, qu'est-ce qui peut justifier justement qu'on en soit aujourd'hui à ce que nous décrions la faiblesse de notre championnat local?
Je dois dire qu'en tant que manager, nous héritons de la période post-Coupe du Monde. À ce moment, notre football, dans son organisation, dans son management, commence déjà à avoir des problèmes. On a vécu la chose, Sauf que
c'était un accident 90.
Non, pourquoi le dire?
Est-ce que 1990 était un accident?
Je ne peux pas dire que c'était un accident parce que il y avait un suivi au niveau des joueurs formés et appelés à défendre les couleurs nationales depuis les catégories inférieures jusqu'en sélection. Je prends en titre d'illustration la montée des frères Karabiyik. Ils commencent en junior. On les voit venir et ils sont pris en main pour intégrer l'équipe nationale A. On sent une progression qui, de nos jours, après, ça n'a pas suivi.
Qu'est-ce qui grippe la machine aujourd'hui? Parce qu'on ne voit plus de victoires en club ici, à l'international. Aujourd'hui, c'est trusté par les équipes du nord du continent.
Il faut dire que, sur le plan infrastructurel, on n'a pas progressé. On n'a pas du tout progressé. On a gardé des infrastructures vraiment de très bas niveau.
Je veux dire, à l'époque, il y avait déjà des infrastructures. Le stade Omnisport de Douala existait. En 1972, le stade de Yaoundé existait.
Sauf que, comme dit le président, sauf que la formation des joueurs, elle ne se fait pas sur ces stades qu'on vient de construire ou sur le stade Omnisport ou à quoi.
Tout à fait.
C'est dans des infrastructures de proximité. Dans les écoles, il y avait des stades. Aller à Yaoundé aujourd'hui me montrer un établissement scolaire qui a un stade de football.
Tout à fait. Et puis il y avait les Jeux au Suc qui réunissaient.
Il y avait les Jeux au Suc.
Les scolaires et les universitaires.
Il y avait le tournoi de l'unité qui réunissait toutes les sélections provinciales ou régionales dans une compétition pendant un mois. Et les sélectionneurs nationaux étaient là pour trier. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Il n'y a plus d'espace d'entraînement. Dans le football de la rue, il n'existe plus. Il n'y a pas d'espace.
À l'époque, on interdisait aux enfants de jouer au foot. Maintenant, avec l'éclosion de quelques stars, Alain en a cité quelques-unes, les parents se sont dit, ah, il y a de l'argent à se faire dans le foot. Et puis maintenant, on retrouve les enfants qui partent d'ici très tôt et qui se retrouvent dans des championnats exotiques. Et donc, vide le Cameroun de cette pépinière qui alimentait et le football local et les sélections nationales. Est-ce que c'est pas cette volonté de faire partir à tout prix les enfants qui a déprécié la valeur du football local?
Je voudrais m'inscrire en faux sur ce que Marx disait tout à l'heure, en voulant attribuer la décadence à la relativité des infrastructures. Mais qu'est-ce que les clubs font? Les stades appartiennent aux États dans notre continent. Et je m'inscrirai également en faux contre ce que Jules disait, en disant qu'il y avait la formation. Non, Jules, tu ne peux pas le dire. Il n'y avait pas la formation.
Non,
C'était l'éclosion des talents. Voilà. C'était l'éclosion des talents avec un suivi méticuleux par des hommes de passion qui dirigeaient les clubs à l'époque.
Mais c'est ça qu'il considère comme
des hommes de passion.
Quelle est la responsabilité de la Fédération camerounaise de football dans cette perte de qualité de notre football local?
Je crois quand même que...
C'est vous qui êtes quand même l'instance fêtière, c'est vous qui organisez le football de manière générale.
Je crois que la fédération a un souci, celui de la stabilité au niveau du management. On a évoqué trois normalisations, on a évoqué un ensemble de problèmes qui empêchent la fédération de se concentrer. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez par exemple l'équipe qui est actuellement en poste, qui assure l'intérim à la suite de la sentence du TAS et de la décision de la FIFA. Eh bien, cette équipe est en place depuis 2 ans. Elle a essayé de construire quelque chose et une sentence du TAS a mis un terme à cela pour ouvrir une période intérimaire. Alors, comment vous faites
pour... Et d'incertitude.
Et d'incertitude, naturellement. Comment vous faites pour mettre en place un programme de développement du football dans ces conditions? Actuellement, tous les acteurs sont concentrés à se demander qui sera le prochain président de la fédération, comment on va refaire les têtes, qui sera candidat, on se bat comment pour remporter la présidence, et c'est le football qui est perdant. Vous savez qu'on est sorti de la grande période, des grands canons, de grands unions, tonnerre, etc., sans avoir réussi à les structurer. C'est des clubs qui n'ont pas de siège, c'est des clubs qui n'ont pas de stade, même pas de stade d'entraînement en propriété, c'est des clubs qui n'ont pas réussi à bâtir de véritables structures pour soutenir l'image qu'ils avaient réussi à acquérir sur le plan continental. Voilà,
entre autres difficultés. Et avec tous ces décors que vous décrivez, vous avez quand même sauté, on va dire, du coq à l'âne, en passant, en essayant de faire les choses un peu à l'envers. On parle de football professionnel, alors que vous-même, vous décriez un environnement qui ne prête pas à la professionnalisation.
Oui, mais ce virage même aussi, on l'a raté, dès 2011. Parce que le cahier de charges que les clubs auraient dû remplir pour acquérir le statut de club professionnel n'a pas été exigé de la part de ces clubs, et on a laissé faire.
C'est-à-dire qu'on passe au professionnalisme d'une façon ou d'une autre, si j'ai bien compris. Mais là, je vois Max qui a envie de réagir.
Impatient. On est dans un environnement qui a vu le tissu économique s'abstenir d'accompagner les clubs de football. Quand on dit football, on dit infrastructure, on dit gros moyens financiers. Le professionnalisme nous est imposé, quasiment. L'État nous accompagne et ça irrite certains. Attention, c'est pas qu'au Cameroun que l'État accompagne les clubs. Ça s'est vu même en Espagne jusqu'à récemment où l'État accompagnait les clubs à des grosses sommes. Quand Abel dit qu'il n'y a plus d'hommes passionnés, attendez, je suis dans le football, ça fait 40 ans, 14 ans comme joueur, 30 ans comme dirigeant. Pouvez-vous me dire si c'est pas de la passion, Alain Foucault? Il y a toujours des hommes de passion. Mais maintenant, il faut nous aider à grandir. Le contexte l'oblige. Souffrons qu'on y arrive. Et nous, on a foi qu'on y arrivera.
Est-ce qu'il faut aller vers le professionnalisme? Est-ce que l'environnement n'est pas fait pour que le professionnalisme ne soit pas tout de suite d'actualité?
Nous avons, grâce au président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, déjà d'excellentes infrastructures, ce qui répond au moins à 50% à la préoccupation d'un football professionnel. Tout à l'heure, on a parlé de la structuration des clubs. Et je crois qu'avec d'autres éléments encore, on y arrivera forcément.
On a envie de dire, vous qui êtes patron de club, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat? On parle de maintenant, pour sortir un peu de ce grand désordre, pour qu'on reparte par exemple dans un championnat qui puisse permettre à des clubs de s'exprimer et d'être un peu plus efficace.
Une décision du TAS donnait raison à la LFPC, la Ligue de football professionnel du Cameroun, dans un différent avec la FECAFOOT, à l'effet d'organiser le championnat professionnel. La FECAFOOT, respectueuse, en a pris acte. On a voulu mettre sur pied quelque chose qui permettrait qu'on organise un championnat crédible dans un environnement où tout le monde se sentirait meilleur, mieux. Alors, que s'est-il passé?
Rapidement, hein, parce que...
Je le dis rapidement. La LFPC a pensé que c'était pas bien fait parce que c'est à elle que revenait l'organisation de championnat. Le différent était au niveau de la nomination d'une secrétaire générale et d'un agent comptable, simplement qui garantissait, je veux dire, quoi, la crédibilité. Donc, et tout de suite, on est entré dans des querelles qui ont fait que...
Qu'il n'y ait pas de championnat.
Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de championnat. Mais il faut dire que nos clubs, on prend un coup sérieux, parce qu'on a maintenu pendant 4-5 mois des enfants aux entraînements sans championnat. Et ça,
on le voit un peu pendant la chaîne, hein, que bon, là, les gens y débarquent un peu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mécanismes habituels. Alors, le sujet qui divise tout le monde ici, la tension entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Tension qui fait que finalement, il n'y a pas de championnat depuis presque un an aujourd'hui. Comment expliquer ça, Julien, là?
On a beaucoup plus joué au football dans les bureaux, dans les ministères, la primature et tout, qu'on ne l'a fait sur les stades. Et la conséquence aujourd'hui, c'est évidemment le fait que voilà, nos équipes ne sont pas préparées, nos équipes sont mal en point et tout.
Qu'est-ce qui explique ça? C'est des questions de personnes, c'est des questions de quoi exactement?
Je pense qui est responsable? C'est des questions de personnes, certainement. J'avais cru à un moment donné que la fédération a constaté que la Ligue ne tournait pas rond, a voulu retirer l'agrément à la Ligue pour réorganiser ce football avant de remettre les choses en route après. Malheureusement, ça a été mal compris. Mais je dis quelque part que ces querelles auraient pu à un moment donné être évitées aussi. Semenge avait
C'est le président de la Ligue camerounaise.
Le président de la Ligue, il avait 6 mois devant lui pour la fin d'un mandat, on aurait pu attendre.
Puisqu'il a atteint la limite d'âge, c'est ça?
Voilà, ces 6 mois passent et puis après on lui dit, oh, terminé, on reprend ça à la fédération, c'est terminé. Mais ça s'est fait dans une ambiance de... Voilà. Donc, résultat, on arrive là où on est aujourd'hui.
Vous écoutez le reproche que l'on fait à la fédération, Monsieur Tiki. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment que cette guerre de personnes a finalement fait beaucoup de mal au football camerounais qui se retrouve avec près d'un an sans championnat?
La fédération est la première à souffrir de cette image. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas un championnat au Cameroun...
C'est une honte.
Ben c'est une honte et la première... personne vers laquelle on se retourne, c'est la fédération. On se pose la question, mais n'y a-t-il pas une fédération dans ce pays? Donc, la FECAFOOT n'est pas heureuse que le championnat ne se soit pas joué. Je partage le constat qui a été fait par l'entraîneur Jules-Frédéric Nyonga. Il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond avec le virage qu'on a essayé de prendre pour le professionnalisme dès 2011. Parce que tout ce que vous avez cité de glorieux pour le football camerounais, vous constaterez que cela vraiment s'est déroulé avant 2011. Je ne dis pas qu'il y a une sorte de plafond de verre en 2011, mais je dis que notre professionnalisme a tourné court. On n'a pas réussi à l'articuler comme il se devait. Les sponsors qui étaient arrivés sont partis, ils sont repartis. Le niveau de championnat a baissé, considérablement baissé. Les joueurs ont commencé à quitter le pays très tôt, de plus en plus tôt pour partir. Des pays qui étaient
de
niveau...
Ça venait de quoi, de l'organisation de la Ligue?
Enfin, le championnat n'était pas bon, l'organisation n'était pas bonne. Les joueurs partaient de plus en plus tôt. Et des pays qui ne nous auraient jamais arraché de joueurs ont commencé à nous en prendre. Ils allaient tout à côté, en Tanzanie, au Gabon, en Guinée équatoriale. Ça veut dire qu'il y avait un souci. Et la fédération, on peut dire, ne pouvait pas laisser continuer. Bon, on peut estimer, j'ai entendu l'expression de Polycarpe, qu'il y a une inélégance. On peut le penser, mais la fédération a répondu à la pression des présidents de clubs qui n'en pouvaient plus, qui disaient « nous ne pouvons plus continuer à jouer avec une ligue de football professionnel. Dans cet état, ce n'est pas possible. »
Je voudrais quand même dire qu'il y a eu une époque où le football marchait très bien dans ce pays. Et je voudrais vraiment qu'on en parle, parce que si on part de ce passé qui était glorieux, on peut comprendre comment on doit restructurer notre football. Pourquoi est-ce qu'à une certaine époque, on avait des clubs qui ont supplombé le football continental? C'est parce que, premièrement, le président de la République de l'époque et son gouvernement étaient impliqués au quotidien dans la gestion du football. Je prends un exemple simple. Vous avez des clubs comme le Canon. Il y avait même déjà une forme de professionnalisme qui ne disait pas son nom.
On reproche que vous faites donc à l'actuel président de ne pas être suffisamment impliqué.
Non, c'est pas ce que je dis. Il était membre de l'ancien gouvernement parce que je crois qu'à l'époque, il était premier ministre. Donc, je dis bien qu'il était impliqué. Le président de la République et son gouvernement étaient impliqués. Je prends un exemple. Tout le monde savait que le président Aïdjo était supporter de Canon. Tout le monde le savait parce qu'il le montrait et il venait même au stade. Je vais dire qu'il y avait une espèce de professionnalisme qui ne disait pas son nom parce que les grandes sociétés d'État étaient impliquées de façon directe dans le développement des clubs. Je veux dire quoi? Vous avez des clubs comme le Canon qui avaient des joueurs qui étaient salariés dans les sociétés d'État. C'était une forme de professionnalisme. Et la crise économique qui est arrivée les années 80-90 est venue mettre un frein parce qu'il y a beaucoup de ces grandes sociétés qui ont été privatisées, d'autres qui ont fait faillite. Et c'est là où la machine a grippé. Il a donc fallu que des gens qui avaient un peu de vision à la tête de la fédération prennent conscience de ce tournant qui est en train de s'amorcer pour prendre les bonnes décisions au niveau de la façon dont ils devaient gérer le football dans l'avenir. Et ça, ça n'a pas été fait. Vous avez beaucoup de mercenaires qui sont arrivés dans le football. Parce que, en réalité, la formation n'était plus pour eux un objectif parce qu'ils étaient là pour se faire de l'argent. Or, le football, dans la formation, c'est la patience. Le coach Union Galère, il sait de quoi je parle, il va pas me démentir. Pour former un joueur et qu'il arrive en maturité, vous ne pouvez pas le faire jouer 2 saisons et vous pensez qu'il est prêt pour être professionnel. C'est pas possible. Et pour ça, il faut des gens passionnés à la tête des clubs. Et quand on dit des gens passionnés, c'est des gens qui sont patients, qui sont prêts à mettre de l'argent, qui sont prêts à se faire accompagner, attendre le bon moment pour faire partir leur joueur. Et pour ça, il fallait que l'État continue à avoir un regard sur qui gère.
Alors pour vous, il faut une grosse implication de l'État dans la gestion du football. Mais là, je pense qu'il faut qu'on redescende un peu sur terre pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent. Nous arrivons à la fin de la première partie de ce magazine. Nous nous retrouvons juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Pour la seconde partie du débat africain, nous continuerons de discuter des problèmes, des difficultés de management dans le football camerounais. Restez à l'écoute, on se retrouve très vite.
Débat africain. Alain Foucault.
Comment font-ils pour remporter autant de titres en étant aussi désorganisés? Qu'est-ce qui explique ce décalage entre l'immense talent de ces joueurs et la gestion chaotique du football camerounais? Comment le réorganiser pour que ces clubs gagnent à nouveau des titres et que de nouveaux talents éclosent? Pour que d'autres, Roger Milla, Samuel Eto'o, Thomas Nkono, Alexandre Son apparaissent, pour que le Lion redevienne vraiment indomptable. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine qui est ce dimanche à Yaoundé, la capitale camerounaise. Avec plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, M. Jules-Frédéric Nyonga, plusieurs fois sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun. Second invité, une des grandes voix du football africain en général et camerounais en particulier. Un confrère qui nous a inspirés. Abel Mbengue, qui a été également un membre important de la CAF, la Confédération africaine de football. Notre troisième invité est Parfait Siki, le directeur de la communication de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise au football. Quatrième invité de ce plateau de Yaoundé en marge de la CHAN, Aldea Bouem Raphaël, qui nous a rejoint dans cette seconde partie. Il est le promoteur de publication du magazine panafricain Signature. Débat africain co-présenté aujourd'hui avec Polycarpe Essomba, le correspondant de RFI au Cameroun, grand amoureux du ballon rond et grand supporter de Canon Yaoundé, je crois. Non,
évidemment.
Alors, nous avons terminé cette partie en écoutant Max, le patron de Dragon Yaoundé, évoquer le sujet latent ici. Les gens se disent, ok, ils ont joué beaucoup au football dans les bureaux, comme le disait le coach Nyonga tout à l'heure. Mais comment on en finit avec ça, Jules Nyonga?
Le relèvement de notre football passe par un ensemble de réformes, des réformes structurelles. Et j'avais ajouté tout à l'heure peut-être des réformes infrastructurelles. Parlant des réformes infrastructurelles, je souhaite qu'en plus de tous ces stades qui ont été construits, qu'il y ait des stades construits à proximité des joueurs.
Les stades de proximité dans les quartiers.
Il y a des stades pour que les joueurs puissent s'entraîner, que les entraîneurs puissent travailler.
En un mot, Abel Mbengue, pour qu'on passe la parole aux gens de la fédération.
L'essentiel pour le football camerounais aujourd'hui, c'est d'abord la foi, c'est d'abord la crédibilité des hommes. Jetez un regard sur le profil de ceux qui dirigent ce football camerounais à tous les niveaux. Puisque vous voulez que je crache.
Allons-y.
Jetez un regard sur le profil. Quelqu'un disait tout à l'heure que c'est des... Je crois que c'est le directeur de publication qui a parlé de mercenaires. On n'est pas loin de là. Il faut donc un sursaut. Et le sursaut ne vient pas de ce que je le disais tout à l'heure, en parlant de planification.
je vois Max qui n'en peut plus derrière, puisqu'il a quitté le plateau tout à l'heure. Alors venez Max, venez passer par là, comme ça vous allez nous dire, parce que je vois que vous êtes très en colère lorsque vous entendez ça, rapidement.
Je crois, non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le directeur de publication, et je partage cette vérité.
Allez-y Max.
Je voudrais le dire simplement, et en deux mots concis, pour dire que, attendez, nous nous ruinons pour former la jeunesse camerounaise. Et qu'on nous appelle des délinquants, c'est diamétralement opposé.
Non, on n'a pas parlé de délinquants, Mars. Il a parlé de mercenaires.
Mercenaires, quand même, non? Mercenaires, comment? Attendez, on gagne de l'argent dans quoi? Dans des transferts, dans quoi?
Et puis, vous avez trouvé le mot.
Je voudrais dire mon mot aussi. Qu'est-ce qui va aider le football camerounais à évoluer? Il nous faut des hommes qui sont à la tête des projets bien structurés, des projets qui parlent de compétition, des projets qui parlent de financement, des projets qui parlent de pérennisation de clubs dans l'OTAN.
Un modèle économique.
Un modèle économique bien construit. Et pour nous clubs, nous ferons confiance à ce genre de personnes.
Pourquoi est-ce que à la fédération, on prend assez grand soin à éloigner de la fédération, de la gestion, du management du football, ceux qui ont construit, qui ont bâti les lauriers du football camerounais? Les Belges Joseph Antoine, les Thomas Nkone et autres, tous ces grands champions que le monde nous envie, on ne les voit pas.
Mais c'est parce que les acteurs du football se choisissent leurs propres dirigeants. C'est-à-dire que M. Bell a été candidat plusieurs fois à la présidence de la FECAFOOT, il n'a pas été élu. Ce n'est pas parce qu'on ne le connaît pas. Il est connu, les acteurs le connaissent, les présidents de clubs le connaissent, mais ils ne l'ont pas élu, ils ont tout le temps choisi son concurrent. Donc il faut...
Sauf que, il n'y a pas que être président de fédération. J'ai plus d'une quarantaine d'années de terrain, entraîneur, à gauche et à droite. Je ne suis pas à l'ANAFOOT, je ne suis pas à la Ligue, je ne suis pas à la Fédération. Je n'appartiens à aucune de vos commissions. CAN, CHAN, football féminin, je ne suis nulle part. Vous pensez que ce bagage acquis en une cinquantaine d'années sur le terrain, j'en fais quoi, moi?
Alain.
Si vous ne me donnez
alors,
pas
la... Pas, voilà. Ne versons pas dans ce genre de débat. S'il vous plaît, ne versons pas dans ce genre de débat.
C'est très important, Abouem.
Non.
C'est important, Abouem. C'est important.
Ne versons pas dans ce genre
c'est
de débat.
C'est important.
Sinon, je serai directeur général de la radio nationale.
Si les acteurs mettent du football... Moi, je ne suis pas journaliste...
je n'irai jamais faire du journalisme là-bas.
Ah bon.
Alors maintenant, les footballeurs, donnez leur au football, la gestion
non.
du football.
C'est la question des hommes. Ah bon. Voilà.
Et je dis non.
Recrutez-moi à la CRTV comme journaliste.
Ah bon.
Oui. Alors, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure.
Rapidement,
au début
parce
de
que...
mon propos, on a un problème de casting. Mmh. Et je pense que le débat, la façon dont il prend la tenue, revient dans ce que nous sommes en train de dire. Qu'il y a un problème de casting. Parce que quand vous mettez les gens qu'il faut à la place qu'il faut, ils ont l'intelligence de s'entourer des collaborateurs qui sont capables de faire le job. Quand on tombe dans le clientélisme, la compétence et l'expertise floquent. Et c'est dans ça que nous sommes. Et c'est ce que je voulais dire.
Mais vous parlez toujours en parabole. Or, celui qui est à l'autre, de l'autre côté du poste, il dit, mais de quoi il parle?
Vous avez invité des hommes responsables.
Mais dans le même temps, les hommes responsables sont venus pour parler.
Ils se reconnaissent.
Je vais vous dire une chose simple. Quand vous avez suivi le fond du problème qui oppose la Ligue de football à la FICAFOOT, je peux vous assurer qu'on parle de tout sauf de football. Mmh.
Donc c'est une guerre de personnes.
Oui,
entre le président de la fédération
et
le président de la Ligue.
Le droit est devenu maladroit au sein du football camerounais. C'est les avocats, c'est les hommes de droit, avec ou sans expérience avérée, qui aujourd'hui se sont emparés du football sur les plateaux de télévision.
Il y a des gens qui sont venus dans le football avec l'idée que dans le football, on gagne beaucoup d'argent. C'est vrai, on gagne de l'argent, mais on peut gagner de l'argent en servant le football. Mais sauf qu'aujourd'hui, ces gens passent plus de temps à gagner de l'argent et le football n'a plus
sa place. Vous n'avez personne à donner un nom ici. Hein. Bon,
je vais vous prendre un exemple simple. Le problème qui annule l'élection du président aujourd'hui, ce problème, pouvions-nous le régler en tant que gentleman, en tant que personne qui se respecte? Parce que moi, je dis toujours, à défaut de s'aimer, on peut se respecter, on peut être bienveillant les uns envers les autres. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez les acteurs du football, ils sont arrivés à un point où, quand vous êtes amis, je vous prends un exemple simple, quand vous êtes amis à Samuel Eto'o, Jérémy Nditape ne vous salue pas. Pourtant, ces gens-là étaient des frères.
Et vice-versa.
Je vais vous dire, par exemple, que moi, j'ai entrepris la démarche de faire asseoir Jérémy et Samuel. J'ai demandé aux gens de voir Samuel. Samuel était d'accord. Jérémy ne nous a jamais donné son accord pour rencontrer Samuel et tout. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, comme vous voulez qu'on parle de ça de façon ouverte,
mais puisqu'on est là,
le football camerounais, le problème du football camerounais, ce n'est pas la génération des Roger Milla. La génération des Roger Milla est là pour accompagner. La génération qui pose problème aujourd'hui, c'est la génération 98-2000. Je vais vous dire pourquoi. Ces gars ont beaucoup d'argent et ils ont décidé pour certains de mettre leur argent pour nuire. Et je disais...
C'est grave ce que vous dites.
Mais ce que je dis, je le soutiens. Vous ne pouvez pas expliquer que des gens qui ont dormi pour certains dans les mêmes chambres quand ils étaient coéquipiers en équipe nationale pendant 10 ans, qui ont fait des affaires ensemble, qui sont les parents des enfants des uns des autres, aujourd'hui arrivent à un point où ils ne peuvent même plus se parler, même pour l'intérêt général, au point où, comme ils ont beaucoup d'argent et qu'ils ont des gens qui nourrissent, ce sont les gens qui nourrissent, qui écument les plateaux télé, les tribunaux, pour paralyser les actions des autres. C'est à ça qu'on est arrivé aujourd'hui. Moi, je dis, au lieu de les prendre individuellement pour discuter avec eux, il faut qu'on prenne toute la bande dont Rigobert Song était capitaine, qu'on les mette dans une salle, qu'on leur dise « Aujourd'hui, vous réglez vos problèmes. Si vous ne réglez pas vos problèmes, vous ne sortez pas d'ici. » Parce que en réalité, c'est vous qui cristallisez le football camerounais aujourd'hui. C'est la réalité. Tout le monde le dit, tout le monde le sait, mais personne n'ose le dire à haute voix. Il y a une fracture, la Coupe du Monde du Brésil, je pense, si ma mémoire est bonne. Et la fracture est tellement grande que cette génération était tellement forte qu'ils ont beaucoup d'amis, que ce soit dans les clubs, que ce soit dans les ligues, que ce soit à la Fédé. Sauf que ils n'ont pas l'intelligence de se dire « Laissons nos problèmes personnels de côté, travaillons ensemble pour l'intérêt du football. »
Est-ce que chacun
c'est
veut être
ça qu'il s'agit aujourd'hui.
C'est ça.
Moi, je ne suis même pas contre qu'il l'un d'eux soit chef. C'est pour ça que je disais tout à l'heure.
Est-ce que c'est une bagarre de chef?
Mais leur problème, c'est quoi, là?
Mais ces enfants, pour vous qui les avez encadrés pour la plupart, qui les connaissez tous, quel est leur problème finalement?
Mais moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une relation entre leur mésentente et l'élection du président de la Fédération camerounaise de football. C'est pas parce que je ne m'entends pas avec lui que ça a une influence sur l'élection du président de la fédération. Quel est le rapport qu'un JITAP et son et tel ne parlent pas entre eux? Quel est le rapport avec une élection à la fédération?
Moi, je vais vous prendre un exemple. Ah, okay. Alors, moi,
l'argent,
je suis pas.
L'argent,
ne
sans
faisons
doute.
Pas. Ouais. Monsieur Foucault, je vais prendre un exemple.
Pardon.
Attendez, que le coach avant.
C'est peut-être l'argent. Mais en ce moment-là, tout le monde est capable de mettre de l'argent.
Monsieur Foucault, je vais me répéter. Parce que c'est le vrai problème. Vous avez voulu qu'on se parle honnêtement. La vérité, c'est ça. Cette génération.
Par exemple, monsieur, la dernière élection de Seydou, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on comprendra.
Il s'est passé. Il s'est passé que M. Eto'o s'est mêlé dans des querelles qui ne sont pas à son niveau. Il s'est passé que M. Eto'o a influencé avec M. Appy le processus électoral. Il s'est passé qu'aujourd'hui, il y a un ministre des Sports au Cameroun, comme il y en a partout en Afrique, qui mérite quand même un brin de courtoisie et de pudeur. M. Zidane ne peut pas aller rendre visite à l'équipe de France sans qu'il passe par la hiérarchie de cette équipe.
Max. Oui. Max. Je voudrais partir de ce que nous sommes en train de dire pour me projeter. Mais je partirai quand même de ce que Abel a dit.
Merci.
Pour le prendre en contre-pied et lui dire que, voilà, nous respectons le ministre des Sports au Cameroun. Nous sommes club. Et ça fait 2 ans que nous tendons la main à son excellence, monsieur le ministre des Sports, nos clubs professionnels. Il ne nous a jamais reçus. Pourquoi il y a donc autant de choses qui irritent? Attendez, c'est nous qui sommes la vitrine du football. Mais si on ne peut pas en parler avec le ministre des Sports, lui dire quels sont nos problèmes, comment nous projetons l'avenir de notre football, quelles sont les choses qui peuvent améliorer. Attendez, vous voulez qu'on s'adresse en
Mars,
ce moment
Mars, dans le profil, dans votre
et
profil.
Et moi, je voudrais continuer. Mars,
on va revenir à Ben.
Pour dire ceci, parmi les noms cités de professionnels, moi, je n'ai pas peur de le dire. Il y a quelqu'un comme Eto'o qui a une véritable préoccupation de l'avenir du football du Cameroun. Je le dis, il n'a de cesse de nous approcher pour savoir, nous, ce que nous avons comme problème et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça avance. Moi, je n'ai pas peur de le dire parce que c'est du concret, c'est du vécu. Alors, on a besoin de gens qui s'occupent d'un projet structuré en termes de format de compétition, en termes de préparation des équipes sur le plan infrastructurel, sur le plan mobilisation de l'énergie et des finances. Nous avons besoin des gens qui peuvent diriger une fédération dans la transparence totale, avec une transparence de gestion. Nous avons besoin des gens qui peuvent nous faire venir des investisseurs étrangers, qui peuvent animer ce... Vous vous imaginez que nous, au Cameroun, on joue un championnat qui n'est pas couvert par Canal+, et que nous envions les Ivoiriens, j'ai rien contre eux. Mais quand même, je pense que dans la hiérarchie continentale, quand on parle du football camerounais, attendez, on passe quand même tout au moins parmi les 3 premiers. J'ai pas peur de le dire. Alors, permettez que nous ayons des gens comme Samuel Eto'o capables de nous mettre dans une dynamique de projet structurant nous permettant de développer notre...
Vous êtes quand même d'accord qu'il va falloir les mettre tous ensemble, ceux qui ont ce souci-là, dans une pièce pour qu'ils puissent s'entendre?
Je milite pour un climat apaisé.
Mais qui va faire l'apaisement?
Il y a l'État qui est là, il y a les autorités qui peuvent...
Sauf amener... qu'on a l'impression que l'État ne s'en préoccupe pas, puisqu'on parle du ministre,
mais
qui ne parle
si
pas au président
l'État
des clubs.
L'État s'en préoccupe. L'affaire a été portée au niveau de la primature, et je dirais même mieux, au niveau de la présidence.
Donc, Nicolas, c'est qui?
Oui, moi je voulais dire que depuis quand même un certain temps, Samuel Eto'o est devenu le bouc émissaire facile des problèmes du football camerounais. Dès qu'il y a un souci, on le voit derrière. Pourtant, je crois qu'il s'est exprimé, je ne sais d'ailleurs pas si c'était au micro de RFI, concernant cette élection, il avait bien dit que tous les candidats sont allés le voir. Le projet de Seydou Momodjoa l'a séduit et il a apporté son soutien au projet de Seydou Momodjoa. Il a dit... Je ne comprends pas pourquoi nous faisons une fixation. Max Comé a absolument raison. Les problèmes sont là, le mal est plus profond. Il faut qu'on arrête donc de chercher de faux boucs émissaires en pensant que puisque tel s'appelle Eto'o et qu'il veut dire qu'il est le plus important.
Oui, mais comment on fait ça si le ministre des Sports ne parle pas aux dirigeants des clubs?
Alors, s'il vous plaît, je représente ici le gouvernement. Mm-hmm. Je suis porte-parole du gouvernement.
Avec Benguet. Mm-hmm.
Je suis porte-parole du gouvernement. Ce que Marx est en train de dire, est tout faux. Un ministre n'est pas là pour recevoir les clubs. Nulle part ailleurs, un ministre ne reçoit les clubs. Il y a une fédération qui porte des doléances des clubs au gouvernement. Mais où sommes-nous? Dans quelle république nous vivons? Non, maintenant, vous parlez des divisions. Vous estimez que M. Eto'o, puisque je ne veux pas parler de lui, parce que on ne me permet pas de parler de M. Eto'o en termes désobligeants. Mais vous voulez l'unité? Nulle part, il n'a été pour cette unité. Je prends l'exemple du dernier match au stade de Yaoundé, où toutes les icônes africaines ont été appelées, ivoiriennes, sénégalaises, où toutes les icônes ont été appelées pour célébrer.
Et Eto'o a refusé.
Eto'o a refusé.
Appelé par qui?
Appelé par la CAF. C'était sous l'égide de la CAF. Ce n'était même pas sous l'égide du COCAN. Vous estimez
qu'à mon avis, il travaille pour la CAF. Parce qu'il ne peut pas blairer les autres, c'est ça?
Non, Eto'o travaille pour la CAF.
S'il vous plaît, parfait, s'il te plaît. Vous estimez que à Mondo Vision, je dis bien à Mondo Vision, ce monsieur refuse de s'allumer là pendant le tirage de ce champ. J'ai été choqué, heurté de constater que même le roi des Ness n'est plus à l'honneur. Vous estimez que ce monsieur, toujours lui, peut recevoir les présidents de club?
Vous voyez, nous sommes en plein champ. C'est nous les propriétaires de l'actif circulant, c'est-à-dire les joueurs.
Non, les joueurs appartiennent à la fédération.
Ils ont signé des contrats.
Oui, mais la licence est fédération.
Ah, ils ont signé des contrats avec les clubs. C'est nous qui les payons. On utilise donc nos joueurs.
Quel mot? Payer.
Ils utilisent nos joueurs et nous ne sommes en rien intéressés dans l'organisation du champ. Nous, présidents de club.
Monsieur Aboun, vous avez la parole, s'il vous plaît.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut contester le leadership de Samuel Eto'o? On ne peut pas le contester.
Mais c'est le cas. Mais alors pourquoi on le combat?
On ne peut pas le contester.
C'est lui qui combat, les
gens. Monsieur Foucault, on ne peut pas contester le leadership de Samuel Eto'o. Est-ce que Samuel Eto'o a envie de fédérer tous ses anciens camarades autour de lui afin que il soit une force réelle qui puisse servir le football camerounais de façon efficace? Samuel Eto'o n'est pas mon ami, hein. Mais j'ai eu l'occasion de discuter avec lui comme j'ai discuté avec les Jérémy, les Sons. Il est ouvert à avoir une discussion franche avec tous ses amis. Mais est-ce que la réciprocité est la même?
Samuel a placé la barre tellement haute que finalement le Cameroun n'a pas été en capacité de gérer une telle icône. Parce que quand même Samuel, sur le plan mondial, je suis désolé, quand on parle football, il a trusté les sommets. Est-ce que le Cameroun finalement n'a pas été dans l'incapacité de digérer une telle star?
Le problème, moi je vais vous répondre, ça va peut-être choquer certains, c'est qu'il y a des gens qui ont joué au football, qui ont atteint des cimes au niveau de la performance et du talent. C'est les Roger Mila, les Mbida, Bega, Thomas Nkono. Mais ils n'ont pas gagné de l'argent. Et vous avez donc la génération qui arrive, intermédiaire qui arrive après, les Samuel Eto'o, les Jérémy Nditab, les Wemelen, les Patrick Mbouma, les Salomon Olembe, qui arrivent et qui gagnent beaucoup d'argent. Et ce qui s'est passé, c'est que les dirigeants
ont pris peur.
Et certains aînés, non, il y a pire que ça. Ils se sont assujettis à ces joueurs au point où ils les regardent comme des larbins. Et aujourd'hui, ceux qui étaient donc censés encadrer ont démissionné parce que, n'ayant pas un certain pouvoir économique, ils se sont assujettis. Quand vous parlez avec Jérémy, vous dites non, Samuel, c'est mon frère. Ouais. Quand vous discutez avec Samuel, Samuel va vous dire Jérémy, c'est mon frère.
Au football, chacun qui y arrive va occuper le sommet, même quand il n'est pas suffisamment outillé pour cela. Il faudrait que, quand on arrive au football, qu'on vienne en se disant que voilà la place que je mérite. Voilà la place où je peux
être. Une star du terrain n'est pas automatiquement
le plus rentable. Alors, que les gens viennent au football et qu'ils acceptent qu'on les utilise au niveau où ils peuvent rendre service au football.
Voilà. On va terminer là-dessus. Merci en tout cas d'avoir accepté de prolonger ce débat qui est passionnant. Où enfin on a dit les choses qu'on avait envie d'entendre. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Merci Polycarp.
Merci Alain.
Et puis on te retrouve à l'antenne. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault. Nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même fréquence.
Le 16 janvier 2001, le président congolais Laurent Désiré Kabila était